9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, ce qui est arrivé hier en Algérie commence à ressembler à un vaste soulèvement populaire. Une marée humaine dans toutes les grandes villes du pays, sans doute des millions de manifestants pour demander le départ d'un président déjà parti, du moins physiquement, puisque Bouteflika est toujours hospitalisé à Genève, et que le pouvoir se fissure défections d'anciens combattants, de patrons, de syndicalistes. Sur quoi peut déboucher ce printemps algérien? Avec nous dans un instant, le professeur à Sciences Po, Kader Abderrahim. L'Europe communautaire est une idée des nazis mise en œuvre par des agents américains et financée par la CIA. Ça vous paraît délirant? C'est pourtant le cœur d'un livre paru cette semaine, déjà classé parmi les meilleures ventes. C'est le dernier livre de Philippe de Villiers.
Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine.
L'Europe, créature américaine au service des intérêts américains. J'ai voulu soumettre cette thèse au plus européen de nos députés français, Jean-Louis Bourlange. Au sommaire également, deux livres qui redonnent vie à des oubliés de l'histoire. D'abord, l'exploration d'une zone grise de la résistance, le maquis Bir Hakeim dans le sud de la France. Action audacieuse et destin tragique, Les Imprudents, c'est le titre du livre enquête du journaliste Olivier Bertrand. Et puis l'évocation d'un pionnier du cinéma qui s'appelait Alfred Machin, sous la plume, inspiré de la romancière Marilyn Desbiols, entre Nice et Casablanca.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Tous les journalistes présents en Algérie, tous les observateurs racontent ce matin ce qu'ils n'avaient jusqu'ici jamais vu dans leur pays. Des avenues noires de monde, un flot ininterrompu de manifestants. C'est à croire que tout Alger est sorti, écrivait hier le correspondant du Monde. Jeunes, petits enfants, anciens, handicapés, certains défilent même en scooter ou dans leur voiture. Les you-you retentissent depuis les balcons, on balance des bouteilles d'eau ou des drapeaux manifestants, tandis que des vendeurs ambulants vendent des fanions verts et rouges à 200 dinars. Mobilisation très impressionnante aussi à Oran, à Constantine, où le maire FLN a défilé, ainsi qu'à Annaba, Béjaïa, Tizi Ouzou, etc. Bonjour Kader Abderrahim.
Bonjour.
Maître de conférence à Sciences Po, spécialiste du Maghreb, je sais que vous êtes en prise directe avec ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on vous a raconté de cette extraordinaire journée d'hier?
La perception que j'ai eue lors de mes conversations hier avec certains nombres d'amis ou de parents, c'est la fête, c'est la joie. Et ça, c'est quand même extraordinaire. D'abord, ça prouve parce que le mur de la peur, effectivement, est tombé. Deuxièmement, on ne vit pas ces manifestations avant tout comme un comportement politique, mais la sensation qu'après l'indépendance est venu le temps de la libération pour tout un peuple. Et je crois que ça forge probablement, en tout cas, c'est la perception que je peux avoir encore une fois à distance, ça forge peut-être une nouvelle conscience nationale pour les Algériens.
Dans les cortèges des femmes, des jeunes, des enfants, des milliers de pancartes en arabe, en français, en anglais, avec des slogans presque aussi inventifs qu'en mai 68, hein, vous les avez vus. Hein,
oui, absolument. Il faut quand même bien comprendre là qu'on est, c'est la génération Internet qui défile. Mmh. Et face à un régime politique qui est totalement autiste et qui ne réagit, vous l'avez relevé comme moi, hein, depuis deux semaines, que par la menace. Et donc, je crois qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas en phase, si tant est qu'ils l'aient été un jour, avec leur propre société. Un slogan qui m'a beaucoup fait rire, c'est le gouvernement nous pisse dessus et les médias disent « il pleut ». Ça dit tout de ce pays. Parce que d'un côté, il y a l'insulte et de l'autre côté, il y a l'invective, y compris de la part de ceux qui pourraient faire convergence avec la société, qui sont les journalistes en Algérie. Même si, évidemment, je comprends tout à fait qu'ils sont dans une situation extrêmement compliquée. Mais cette inventivité, cette créativité de cette jeunesse 2.0 ou 3.0, je ne sais plus où on en est, est aussi la marque de fabrique de cette mobilisation algérienne.
Je citais quelques autres slogans. Ils ont les millions, nous sommes des millions. C'est l'accusation d'enrichissement, évidemment, oui, contre l'oligarchie au pouvoir. Il y a aussi les paroles détournées de la bohème d'Aznavour. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On nous parle d'un temps qui a duré 20 ans et que l'on ne veut plus connaître. C'est pas mal. Et j'ai vu aussi, il n'y a que Chanel pour faire le numéro 5. Ça, c'est évidemment le cinquième mandat de Bouteflika. Et puis, dans beaucoup de cortèges, l'Algérie n'est pas une monarchie. Système dégage, c'est le hashtag, le mot-clé, système dégage. Est-ce qu'on peut dire, Kader Abderrahim, que quelle que soit l'issue de la crise, une page s'est tournée que l'Algérie ne marchera plus, le peuple algérien ne marchera plus comme avant ?
Indéniablement. Je ne sais pas ce qui va se produire. On peut formuler une ou deux hypothèses, mais indéniablement, il y a eu un avant et donc il y aura un après. On est de facto entré dans quelque chose qui s'appelle une transition. Je ne sais pas quelle forme elle prendra, je ne sais pas quels sont les hommes qui vont l'incarner, mais indéniablement, on est entré dans une phase de transition. Combien de temps elle va durer, je ne sais pas non plus, ça fait beaucoup de questions. Mais en tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les Algériens réclament un Gorbatchev. Il ne faudrait pas que le régime leur sorte un Poutine, parce que ça, ça ne passera pas. Et c'est peut-être l'inquiétude que je peux avoir, c'est la seule que je formule depuis le début de ces mobilisations, c'est que si vraiment le régime ne comprend pas et sort un Poutine de sa poche, ouais, ça pourrait déboucher effectivement sur la violence.
Des Poutines, il y en a sûrement, mais des Gorbatchev, on ne voit pas bien qui encore. Vous restez avec nous, Kader Abderrahim. On va voir dans un instant, et avec Jean-Louis Bourlange, le député, on va envisager les issues politiques de cette crise.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Et avec Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste du Maghreb et de l'Algérie, on se demande comment peut tourner cette épreuve de force entre des citoyens qui, très nombreux, peut-être par millions, disent leur refus de voir se maintenir un président fantôme et un pouvoir qui réaffirme qu'il ne veut pas céder et qui agite le spectre du chaos en se présentant comme le garant de la paix après des années de guerre civile. Il faudrait, disiez-vous, il faudrait un Gorbatchev algérien. Il existe, Kader Abderrahim ?
C'est une métaphore, évidemment. Oui. Hein. Mais oui, je suis convaincu qu'il existe.
Parce que Bouteflika fait le vide autour de lui. Il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de successeur.
Absolument. Mais là, on n'est pas dans... Il ne faut plus raisonner en termes monarchiques. Attention. on a eu les mêmes débats après les émeutes d'octobre 88. Souvenez-vous, déjà émeute de la jeunesse qui avait été réprimée par l'armée, probablement plusieurs milliers de morts. Et toute la question était de savoir qui allait nous permettre d'entrer dans cette transition. Et puis, a surgi un homme qui était juste directeur du protocole de la présidence de la République, qui s'appelle Mouloud Amrouche, et qui a engagé des véritables réformes démocratiques, qui a tenté de réformer le système de l'intérieur. Donc il ne représentait pas un danger pour le système. Il a tenté de le leur faire comprendre. Et donc il y a eu une parenthèse démocratique réelle, très vivace, entre 1989 et 1991, qui a conduit au premier état de siège en 91, puis au coup d'État après la victoire des islamistes en janvier 92. Et donc, je suis convaincu qu'il existe. Toute la question aujourd'hui, et c'est ce que je pense qui est en train de se dérouler dans la coulisse, c'est que pour les caciques du régime, il faut trouver un homme qui soit capable d'assurer à la fois cette transition, mais qui soit en même temps acceptable pour le régime et pour la population. Et je crois que c'est ça qui fait une équation particulièrement difficile à résoudre.
On a souvent dit que le pouvoir algérien était une boîte noire où les dissensions restaient cachées. Là, apparemment, ça n'est plus le cas. Il y a des défections dans les rangs du FLN, à commencer par les anciens combattants de la guerre d'indépendance, l'organisation des Moudjahidines qui a diffusé mardi un communiqué assez critique. C'est important, c'est significatif.
C'est extrêmement important. Là aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a un avant et un après. C'est du jamais vu depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que c'est une des organisations satellites du FLN qui est l'un des piliers à la fois idéologique et qui est en même temps un rempart prétorien du régime. Et par conséquent, le fait que l'Organisation nationale des Moudjahidines retire son soutien à Bouteflika est un signe qui ne trompe pas et le bateau prend l'eau de toutes parts, comme vous le disiez. Hein. Ce n'est pas juste l'ONM, c'est aussi les organisations de femmes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'organisations satellites du FLN qui sont en train de se retirer et de condamner le comportement ou cette cinquième candidature ou les deux. Et par conséquent, oui, c'est extrêmement important et c'est un signal fort.
Parmi les slogans récurrents dans les manifestations depuis le 22 février, il y a ce mot Silmia, qui veut dire
pacifique.
Pacifique. Et il y a eu des affrontements hier soir à la tombée de la nuit à Alger, une centaine de blessés, 200 arrestations, mais c'était après la manifestation, alors que les rues étaient en train de se vider. Face à cette mobilisation populaire qui grossit de semaine en semaine, est-ce qu'il peut y avoir la tentation de la répression, de faire peur pour le coup et de vider les rues et les familles, ces femmes, ces jeunes qui envahissent les rues?
Alors si le régime avait dû réprimer, il l'aurait fait déjà depuis longtemps. Avant le 22 février, déjà, lorsque les étudiants se sont rassemblés sur les campus, alors on les a cantonnés, on a fermé les grilles, notamment de la fac centrale d'Alger, pour éviter qu'ils ne sortent dans la rue. Et tout de suite, on a compris qu'ils ne cherchaient pas l'affrontement. En revanche, au stade où nous en sommes aujourd'hui, une provocation est facile à organiser, à monter. Ils l'ont déjà fait par le passé. Ils peuvent parfaitement rejouer cette partition, mais ce serait prendre un risque énorme. Je constate, je relève que le chef d'état-major des armées, la semaine dernière, lorsqu'il était en visite à Tamanrasset, a eu des propos très durs à l'égard des Algériens qui manifestent en les menaçant, clairement. Et puis ensuite, le Premier ministre, qui lui aussi a fait ce parallèle qui n'attendait plus avec la Syrie, avec qui a menacé. Et puis, il y a eu la déclaration du porte-parole du secrétaire d'État américain, et tout d'un coup, le discours a changé. On est devenu plus posé, plus pondéré. Donc vous voyez, je crois qu'ils comprennent, d'abord très bien les rapports de force, et ils comprennent et ils entendent qu'ils sont sous observation internationale, et je crois qu'ils ne vont pas réitérer les erreurs qu'ils ont pu commettre dans les années 90.
Kader Abderrahim, alors je voudrais me tourner vers le député français qui est à vos côtés. Bonjour Jean-Louis Bourlange.
Bonjour.
Merci d'être là. Votre regard sur ce printemps algérien et aussi votre point de vue sur ce que devrait être la position française dont la position jusqu'ici, dont la prudence confine au mutisme.
Oui, d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit votre invité, à savoir que c'est un bouleversement extrêmement profond de l'ensemble du système public algérien. Et on voit bien que c'est à l'intérieur même de l'appareil officiel que les forces se désagrègent. On est en face de quelque chose de très profond qui remet en cause les structures actuelles du système politique algérien. Je crois qu'on ne peut pas, on ne doit pas du tout sous-estimer l'importance de cette affaire. La deuxième chose, c'est que c'est magnifique. Quand on voit cette jeunesse, sa fraîcheur, sa détermination, sa volonté, sa dignité, car d'abord c'est une affaire de dignité, on leur demande de voter pour un mort-vivant. Une effigie dans l'ancienne France, on avait, quand le roi mourait, on mettait une effigie en bois et on lui apportait ses repas avant que le futur roi soit sacré.
En Algérie, c'est un cadre.
Et là, c'est un cadre qu'on promène dans la rue. Donc oui. Les gens, c'est un réflexe de dignité que de dire non, nous ne sommes pas gouvernés par une effigie, par un cadre, nous sommes gouvernés par un homme ou par une femme que nous avons choisi. Donc je crois que c'est magnifique. Mais c'était magnifique aussi il y a quelques années, toutes ces foules du printemps arabe qui ont vraiment réclamé une société de liberté. On voit que ça n'a pas, presque partout, ça n'a pas bien tourné. Alors, s'agissant de la France, moi, je suis quand même extrêmement enclin à la prudence. D'abord, on a l'exemple de la Libye. On s'est lancé tête perdue. Moi, j'étais très réservé sur l'affaire libyenne.
Oui,
on avait tous les défenseurs des droits fondamentaux. Tous les défenseurs des droits fondamentaux avaient, à juste titre, devant les horreurs que professait Colonel Kadhafi, a dit il faut faire quelque chose. Et on est intervenu et on a fait, comme diraient les enfants, pire que mieux. Bon. Et là, nous sommes dans une situation où nous sommes particulièrement mal placé. Le pouvoir algérien, il s'est quand même constitué au terme d'une guerre qui a été menée contre la France, qui était une puissance coloniale. Et donc, toute intervention peut être assimilée à une ingérence et peut être assimilée à un phénomène de rejet. Je crois que nous avons particulièrement, parce que nous sommes l'ancien colonisateur, parce que nous avons mené une guerre très dure, très violente, avec des atrocités de part et d'autre d'ailleurs, mais des atrocités de la puissance coloniale qui sont indiscutables, nous devons effectivement être extrêmement, extrêmement prudents. Je crois que c'est la sagesse, mais et je crains. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'absolument cette crise se résolve, parce que je crains que cet affrontement entre un pouvoir, vous étiez plutôt optimiste, monsieur, il y a un instant, moi je suis enclin naturellement à un certain pessimisme. Je crois que l'affrontement entre un pouvoir qui est en train de mourir, mais qui dispose de la force, et une jeunesse qui dispose de l'espérance, mais qui ne dispose pas de la force, ça peut vraiment faire du vilain. Je suis très, très inquiet, autant qu'admiratif des mouvements de jeunesse, des mouvements de jeunesse, et pas seulement de jeunesse, de toute une population, toute une société civile qui réclame la dignité politique.
On va refermer provisoirement, évidemment, ce dossier algérien. Merci à vous, Kader Abderrahim. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Jean-Louis Bourlange, on vous retrouve dans un instant. Je suis curieux de savoir si vous saviez que l'Europe était un complot américain.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec Jean-Louis Bourlange, député MoDem des Hauts-de-Seine, à propos d'un livre dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, même s'il fait la une de Valeurs Actuelles, La Bombe de Villiers. Mais ce livre, J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu chez Fayard, est déjà classé parmi les meilleures ventes et il expose au grand jour des thèses diffusées jusqu'ici plutôt à bas bruit, notamment par le souverainiste François Asselineau, sur la compromission des pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet et Robert Schuman, avec la puissance américaine. Philippe de Villiers publie des documents qu'il présente comme déclassifiés qui tendraient à prouver que l'Union européenne est un grand mensonge, que le fruit était pourri dès l'origine, parce que, pour résumer, l'Europe est un projet de la CIA et la continuation de l'Europe hitlérienne. Jean-Luc Bourlange, que vous inspire cette théorie ?
Ça m'inspire l'idée que nous sommes dans une époque fondamentalement complotiste, où on ne peut pas évoquer des thèses, des choix politiques, sans maculer son adversaire ou celui qui ne pense pas comme vous, d'une sorte de péché originel, de dénonciation, et que ça fait très bien vendre. Donc je pense que le livre de M. de Villiers va avoir un grand succès, comme toutes les thèses complotistes ont un succès. Maintenant, sur la question de fond que vous posez, elle est très intéressante, non pas en termes de complot de la CIA, ce qui ne veut rien dire, mais en termes du rapport entre la fondation de l'Europe et les États-Unis. Oui. Je crois qu'on a fondé l'Europe, il faut partir de l'échec de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, pourquoi est-on arrivé à cette situation absurde, aberrante et terrifiante qui a conduit au nazisme et à la Seconde Guerre mondiale ? Tous les analystes disaient pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas su développer une relation de réconciliation avec l'Allemagne. Or, l'équilibre européen est fondamentalement instable, équilibre continental, quand vous avez la France, l'Allemagne, la Russie. Il y a à tout moment, l'un des deux va s'allier avec l'autre et menacer le troisième. Et vous ne savez jamais quand. Soit vous êtes avec l'Allemagne et vous dominez par rapport à la Russie, soit vous êtes avec la Russie, comme en 1914, et vous enserrez l'Allemagne, soit l'Allemagne est avec la Russie, comme en 1940, et elle nous menace. Ce que le premier calcul, le premier choix de l'Europe, c'est dire il faut en finir avec cet équilibre instable que Kissinger définissait en disant le problème de l'Europe, c'est qu'il faut que l'armée allemande soit assez puissante pour battre à la fois l'armée française et l'armée russe, mais pas assez puissante pour dominer l'Europe, ce qui était absurde. Et on a donc et c'était aussi l'idée de Simone Veil, je me le rappelle très bien, on a donc dit qu'il faut créer entre les deux partenaires les plus proches, les deux partenaires qui décidément seront attachés à la démocratie, l'Allemagne et la France, des liens très profonds qui fait que cette instabilité ne soit plus possible. La seconde raison qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale, ça a été, on l'oublie, le repli américain. C'est qu'en 1918, Wilson n'a pas été suivi par le Congrès des États-Unis, le traité de Versailles n'a pas été ratifié, les garanties américaines sur l'équilibre européen du traité de Versailles n'ont pas été assumées, et nous nous sommes retrouvés, nous Français et Anglais, et les Anglais sont un peu défilés à ce moment-là, seuls face à l'Allemagne, et nous n'avions pas du tout la ressource nécessaire. En 50 plutôt, on a dit, et c'est là où Villiers a raison, c'est que c'est une analyse commune à Jean Monnet, à Robert Schuman, à la plupart des dirigeants français et à la diplomatie américaine. On a dit on va arrêter, on va faire une réconciliation franco-allemande et ça a donné les résultats qu'on a vus en termes de croissance, en termes de paix, en termes de coopération. On n'a jamais eu une Europe aussi tranquille, aussi heureuse que depuis ce moment-là et on va intégrer effectivement les États-Unis car nous sommes incapables de nous défendre seuls en 1950. Il n'y a pratiquement plus d'armées européennes qui tiennent le coup. Nous sommes incapables de nous défendre face aux soviétiques. Et donc, on a construit effectivement une relation très profonde. Le problème était simple. Soit on disait aux Russes, soit on disait « on ne défend pas l'Allemagne si les Russes attaquent ». Ça veut dire « on se protège sur Strasbourg ». Donc, on laisse les Russes arriver jusqu'au Rhin. Pas possible. Ou alors, on défend l'Allemagne, mais on interdit aux Allemands d'avoir des troupes. Donc, nous, Français, Anglais, Américains, on va se faire tuer dans les plaines allemandes pendant que les Allemands écouteront la radio et le résultat des combats. Non, on a donc inventé à la fois l'Europe pour réconcilier, et c'était un calcul commun à tous ces hommes politiques, pour réconcilier la France et l'Allemagne, et une solidarité atlantique, dans un système, l'OTAN, qui était respectueux. Ça a été l'apport de Mendes France, ça, il ne faut pas sous-estimer. Les accords de Paris ont été très intelligemment conçus au lendemain de l'échec de la communauté européenne de défense, dans un système qui était respectueux des souverainetés. La preuve, c'est qu'on en est sorti, puis qu'on y est rentré, et on n'a jamais été prisonnier de l'OTAN. Donc ce double calcul est éminemment digne. Il a assuré la sécurité de l'Europe, il nous a permis de résister quand Kennedy a dit « Ich bin ein Berliner », et il nous a permis finalement, après la résistance de Kohl et de Mitterrand à Bonn dans les années 80, il a fini par faire craquer l'Union soviétique. Donc moi, je suis fier de cette histoire-là et je ne crois pas qu'on doive diaboliser l'alliance entre les États-Unis et l'Europe, même si maintenant la roue a tourné et qu'on est en face d'un client à Washington qui est tout à fait orienté, oui, câblé différemment.
Pour résumer, c'est pas un complot, c'est un choix géostratégique qui vous semble tout à fait pertinent.
Et qui est nourri de l'échec de l'entre-deux-guerres. Ne l'oublions pas, ces gens avaient réfléchi à ce qui leur était arrivé.
Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges d'être venu nous dire ceci sur Europe 1 en direct ce matin. Dans un instant, enquête sur un massacre oublié au printemps 44, le journaliste Olivier Bertrand publie Les Imprudents.
Europe 1, de 9h à 10h, c'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen.
Bonjour Olivier Bertrand.
Bonjour.
Journaliste, vous avez cofondé le site Les Jours. Après 23 ans passés à Libération, vous signez une enquête historique formidable. Votre livre s'appelle Les Imprudents, il raconte l'histoire des 15 habitants du hameau des Crottes en Ardèche, sur la commune de Labastide de Virac. Parce qu'ils avaient caché des maquisards pendant la guerre, des résistants qu'on appelait les Birakins à cause de leur appartenance au réputé et redouté maquis Birakem. Ces 15-là, le plus jeune avait 15 ans, le plus vieux 73 ans, ont tous été fusillés par les SS de la division Brandebourg le 3 mars 44. On peut voir encore les traces de balles sur le mur et une stèle à son pied qui témoigne de ce qu'on a parfois appelé le petit oradour ardéchois. Mais on y a retrouvé un 16e corps. Il manquait donc un nom sur la stèle et sur la plaque de sa tombe où il est écrit simplement « Inconnu » et une partie de l'histoire que vous avez reconstituée, que vous révélez 75 ans après, Olivier Bertrand. D'abord, c'est une histoire qui vous était familière, ce village, c'était un berceau familial.
C'est ça, ma famille a vécu pendant des siècles dans ce hameau précisément, qu'elle a quitté ensuite pour des raisons d'exode rural. Moi, j'y passais toutes mes vacances et j'étais en fait très jeune quand pour la première fois, mon père m'a raconté cette histoire. Et j'étais fasciné à la fois par ce hameau qui était à l'époque abandonné. Des figuiers avaient poussé dans les ruines, il n'y avait plus rien. Et en même temps, fasciné par cet inconnu, ce 16e homme qui pour moi était inconnu, inconnu à vie, si j'ose dire. Et que j'ai décidé finalement, il y a assez peu de temps, il y a quelques années, d'essayer de découvrir.
Qui était honoré comme tel à chaque 3 mars, à chaque date anniversaire du massacre.
C'est un moment très émouvant à chaque fois, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle l'appel aux morts. Le maire égrène les noms de tous les habitants du village et tous les habitants qui sont là disent « mort pour la France, mort pour la France », j'ai toujours des frissons. Et à la fin, le maire dit tous les ans « un inconnu » et c'est toujours le moment pour moi où les larmes coulent en fait pour cet homme auquel on rendait hommage. Jusqu'à ce dernier week-end, la semaine dernière, où pour la première fois, on a pu donner un nom à cet homme.
Voilà, parce que c'est l'aboutissement de votre enquête. Alors, quand vous vous lancez là-dedans, vous voyez que c'est un couvercle que le village n'a pas très envie de soulever, qu'il y a une forme de secret, il y a une forme de mystère, peut-être parce qu'il y a eu des dénonciations, qu'il y a eu des choses qui ont déplu au village.
À mon avis, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que j'étais très surpris au début. Moi, j'étais naïvement assez fier de me lancer dans cette enquête. Je pensais que les anciens du village allaient être très contents de participer. Et en fait, très vite, ils m'ont dit « Mais à quoi ça sert de remuer tout ça? Ces braves gens sont morts, laissons-les en paix à présent. » Je pense qu'il y avait effectivement la peur que cette enquête révèle des dénonciations qui viennent du village ou des villages autour. Et puis, il y avait également le traumatisme juste à la fin de la guerre qui faisait qu'on a posé une chape de silence très épaisse et assez lourde à soulever.
Mais on vous transmet, on vous fait parvenir des documents et puis vous cherchez vous-même des rapports d'enquête, d'autopsie, des témoignages. Y a-t-il des témoins vivants? Oui. Par exemple, vous trouvez la trace d'un habitant de Montpellier, Albert Uziel, 94 ans. Et puis, au moment
où... quand je réussis à trouver son adresse, quand je recherche son adresse plus exactement, je découvre en fait qu'il est mort 2 jours plus tôt. Je tombe sur un avis de décès dans le Midi Libre qui me dit qu'Albert Uziel est mort 2 jours avant. Et là, je me dis, mais quel crétin je suis. C'est-à-dire que cette histoire, je la connais, moi, depuis maintenant près de 50 ans. Et en fait, voilà, je pense qu'on est sur une parole qui est en train de disparaître. C'est aussi pour ça, paradoxalement, d'ailleurs, que la parole se libère, je crois, aujourd'hui. On est à un moment où les Benjamins, parmi mes témoins, ont 85, 84, 85 ans. Et les plus anciens ont jusqu'à 98 ans. Il faut se dépêcher pour les faire parler. Ouais.
Vous trouvez des indices, un surnom grand-père, et puis vous vous lancez dans une sorte de road movie historique parce que vous suivez le chemin de ce maquis de Bir Hakeim depuis l'Aveyron. Maquis qui est une sorte de phénomène unique au sein de la Résistance.
À ma connaissance, c'est unique, oui. Alors moi, je connais ce nom pareil depuis toujours, et pour moi, c'était assez mythique, le maquis Bir Hakeim. Rien que le nom, rien que l'évocation de cette bataille. Mais unique à la fois parce que c'était un maquis très, très indépendant, qui dépendait de l'armée secrète, qui vient au départ de combat, donc mouvement gaulliste, mais dans lequel on trouve aussi des gens d'extrême droite, des communistes. Enfin, c'était une sorte d'œcuménisme politique assez fort, totalement indépendant, notamment parce qu'ils avaient trouvé des liens directs, des gens très jeunes, donc peut-être dans une sorte de toute-puissance adolescente qui explique un petit peu leur parcours et les conséquences sur leur parcours.
Oui, maquis qui compte les biraquins, donc ce sont les imprudents qui font le titre de votre livre. Maquis qui compte à la fin une centaine d'hommes, dont les actions entraînent un grand nombre de représailles nazies contre les civils. Groupe au destin tragique, 105 morts en tout, je crois, sur ce maquis. Imprudent ou tête brûlée?
Un peu tout ça, c'est-à-dire que c'est... Au début, le roman national après-guerre fait qu'on a gravé dans nos imaginaires des héros qui ne sont qu'héroïsme. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est à la fois les ressorts de la résistance et en même temps ces zones grises, et d'essayer de comprendre un petit peu en quoi le héros n'est pas qu'héroïsme. Et l'héroïsme est aussi accompagné d'imprudence, et c'est tout ça que ces jeunes gens sont morts, à la fois de leur courage et en même temps de leur inconscience des fois.
Alors on ne va pas refaire toute l'enquête là ici, et puis on n'aurait pas le temps... Enquête à la fois sur ce massacre et puis sur votre propre famille. Vous découvrez que toute votre famille était pétainiste. Ça vous fait quelque chose, ça vous fait un choc.
Sur le coup, ça fait drôle. C'est-à-dire voilà. C'est un mot qui résonne assez fort et assez longtemps dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Après, voilà, quand on creuse, c'était pas un pétainisme d'extrême droite pour le coup, pas un pétainisme collaborationnisme, un pétainisme assez banal de gens qui à la fois... continuait d'idolâtrer le héros de Verdun et puis en même temps était fidèle à des valeurs catholiques. Voilà, c'est des gens qui étaient d'un pétainisme assez passif.
Et puis un nom qui finit par surgir, et même une photo, puisqu'on a, vous avez découvert à la fois le nom et puis on a la photo du 16e homme de ce massacre.
Le week-end dernier, il y a eu un moment très émouvant. En fait, je voulais qu'avant que ce livre sorte, je voulais retourner dans ce village et restituer aux gens, aux habitants de ce village, leur propre histoire et leur dire, avant que le livre sorte, qui était cet inconnu, en fait. Et donc, le samedi soir, la veille des 75 ans de ce drame, tous les habitants étaient réunis dans une petite salle polyvalente dans ce village. La salle était bondée, les gens étaient assis debout de partout. Et à la fin, après leur avoir raconté tout ce que j'avais découvert, je leur ai révélé le nom et je leur ai montré la photo de cet homme. Et à ce moment-là, le maire est revenu et a proposé que tout le monde se lève pour une minute de silence. Et c'est assez classique, une minute de silence, mais celle-ci était vraiment bouleversante.
75 ans exactement après, Olivier Bertrand, votre enquête m'a rappelé un livre extraordinaire, celui de, je ne sais pas si vous le connaissez, celui de Gilles Perrault, la longue traque sur l'affaire Farjon, Roland Farjon, ce chef de la résistance accusé de trahison, retrouvé suicidé dans la Seine en 1945. On navigue là aussi dans les zones grises de la résistance. C'est un très grand livre et d'une certaine façon, vous prenez sa suite. Les imprudents, Olivier Bertrand au seuil. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
Et le temps de quelques réclames, on va passer de l'Ardèche à la Côte d'Azur avec Marilyn Desbiolles qui redonne vie, elle, un réalisateur de films muets. Machin, c'est son nom et celui du livre. À tout de suite.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine. Continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Marilyn Desbiolles.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une trentaine de romans. Vous avez eu le prix Féminin pour Anchise. Votre livre précédent, Rupture, avait pour cadre l'une des plus grandes catastrophes civiles jamais survenues en France, la rupture du barrage de Malpasset au-dessus de Fréjus en décembre 59. 423 morts engloutis par les eaux du barrage. Le nouveau livre s'appelle Machin, on va dire pourquoi dans un instant, après avoir parlé de la Côte d'Azur et de la région niçoise, parce qu'on y reste dans ce livre. On contemple Nice, votre ville, puisque votre livre s'ouvre sur la baie des Anges et sur Nice, dont la beauté vous saute au visage, écrivez-vous par la voix de votre narrateur. Mais c'est bien Marilyn Desbiolles qui parle, non?
Oui, je... je rebats les cartes grâce à mon narrateur qui découvre Nice. et je redécouvre Nice à chaque fois. C'est vrai que je ne m'y fais pas à cette ville. J'y suis depuis toujours. Et cette beauté m'éblouit toujours. Je ne sais pourquoi. Et j'ai inventé finalement ce petit pays, cette petite province niçoise comme cadre de mes romans. Et je la réinvente à chaque fois. Je la déploie à chaque fois parce que je comprends pas bien cette ville et parce que la beauté est incompréhensible.
Et vous ne vous lassez pas de la célébrer. Machin, c'est le nom d'un pionnier du cinéma, Alfred Machin, complètement oublié aujourd'hui. Oui. Presque aucune trace à Nice, où il avait ses studios, où il dressait des animaux pour les faire tourner. On lui doit plus de 100 films jusqu'à sa mort en 1929. Mais avouez que vous avez aussi été séduite par son nom.
Ah oui. Bien sûr. Je découvre Machin par un pélican naturalisé.
Oui. Mais oui, c'est le personnage du pélican.
Qui est exposé dans le village, parce que j'habite à côté de Nice, dans un village. Parce qu'à Nice, on n'est pas tout à fait féru d'histoire, hein, je dois dire. Machin est complètement oublié, il n'y a même pas une petite plaque,
rien. Il n'y a pas de plaque, il n'y a rien.
Donc c'est ce pélican naturalisé. Et moi, les animaux, pour moi, c'est important aussi. Ce sont des passeurs d'un autre monde. Le pélican me fait parvenir à Machin, mais c'est surtout le cartel, quoi. Le pélican de Machin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le cas de le dire.
Et en fait, c'est un pélican qui s'est échappé d'une de ses volières.
Voilà,
c'est
parce
ça
que Machin avait à partir de 1919, avait des studios à Nice où il dressait des animaux pour le cinéma. Un pélican s'en est échappé, a atterri dans le Paillon, le fleuve côtier de Nice, a été tiré par un chasseur. Il l'a fait naturaliser au Muséum d'Histoire Naturelle, voilà.
Et c'est tout ce qui reste de lui aujourd'hui, oui. Puisque c'est ses studios qu'il avait... oui, ses films évidemment, mais sur place, ses studios dans le quartier du Bon Voyage, il ne reste rien, il n'y a pas une plaque, il n'y a plus rien du tout. Alfred Machin a donc été reporter photographe à l'illustration avant de travailler pour Pathé et de partir... en Afrique, d'où il rapporte des images animalières et des scènes de chasse. On le voit sur beaucoup de photos en train de câliner une panthère apprivoisée, Mimir, hein, qu'il avait rapporté d'Afrique. Il avait appris donc à dresser les animaux sauvages. Il connaît une mort prématurée, crise cardiaque à 52 ans. Et sa famille part, 10 ans plus tard, à Casablanca, dont son jeune fils, Claude Machin, qui a joué des rôles d'enfant dans plusieurs films de son père. Claude, surnommé Clo-Clo, qui deviendra garagiste à Casablanca. C'est lui qui fait découvrir, qui raconte Alfred Machin à votre narrateur et qui est fier de son nom, hein, c'est important.
Oui, exactement. Oui, ça m'a paru très romanesque, cet exil donc, des Machins à Casablanca. Madame Machin, qui a été aussi une comédienne, va tenir la caisse du théâtre de Casablanca. Et puis Clo-Clo, donc, Monsieur Clo-Clo, comme je l'appelle, va tenir un garage. Et c'est là qu'il va délivrer la geste,
le récit
d'Alfred Machin, qui va raconter à mon narrateur les films donc le narrateur ne les voit pas, il entend parler des films.
Il en reste quelques traces de ces films, mais il est fier, Clo-Clo, des studios Machin, donc installés à la sortie de Nice, route de Turin, fier d'avoir eu Charles Pathé pour parrain.
Oui, mais il a raison vraiment d'être fier, parce que ces films, les films de Machin sont extraordinaires. C'est incompréhensible, enfin il y a plein de gens oubliés, hein, hélas, mais c'est vraiment très inventif. Et c'est ce burlesque d'avant la guerre de 14 qui est extrêmement salutaire. Il y a plein de choses qui sortent en ce moment sur YouTube. Il faut regarder ça, c'est très salutaire.
Mais grâce à votre livre, il y a eu un hommage il y a quelques jours à la Cinémathèque de Nice. J'ai vu ça pour parler de votre livre et des studios Machin en présence du pélican.
En présence du pélican.
Prêté par le Muséum d'Histoire Naturelle. Le pélican est venu.
C'est vrai, il était très important. C'était le pélican qui a connu Machin. Et non, mais c'est vraiment, il y a quelque chose de politique, je dirais, dans ce burlesque, dans l'impertinence absolue de ces films qui fichent le bordel, pardon. Les flics se retrouvent cul par-dessus tête, les bourgeois sont secoués, des femmes se retrouvent avec un cochon dans leur lit. C'est très vert, c'est très cru, et ce rire, il est formidable, je trouve.
Il y a eu un hommage plus discret il y a quelques années par Bruno Dumont, parce qu'il avait donné le nom d'Alfred Machin au gros inspecteur dans le film Malout.
Oui.
Je pense que le clin d'œil était évidemment volontaire.
Bien sûr. Voilà. Et Bruno Dumont, ça lui a fait faire aussi cette formidable série Le Petit Quinquin.
Absolument. Votre livre, Marilyn Desbiol, s'ouvre sur la baie des Anges et il se referme sur la baie des Anges au soir du 14 juillet 2016 et d'un d'un camion qui fonce dans la foule sur la promenade des Anglais. Pourquoi ?
La tragédie, bon, j'ai parlé de l'éblouissement, j'ai parlé du rire, mais la tragédie, elle est quand même là. Elle est même, je dirais, dans ce paysage méditerranéen, dans cette lumière noire presque insoutenable. Et en fait, j'ai écrit ce livre, vous avez parlé de rupture tout à l'heure. Oui. Dans Rupture, cette tragédie, cet attentat du 14 juillet 2016, il était en filigrane. Mais là, j'ai voulu l'affronter pour de vrai, quoi. Donc, je savais très bien où j'allais. Je dis toujours que j'écris des livres, je ne sais pas quelle va être la fin, mais là, oui, je savais où ça allait me mener. Et au fond, c'était une manière pour moi de ne pas... d'affronter les choses. J'étais à ce fameux 14 juillet, mais là n'est pas la question. On a tous été secoués par cette tragédie qui a vicié la lumière. On peut plus jamais la voir de la même manière. La tragédie, elle est d'ailleurs dans Machin lui-même, qui a aussi fait un film qui est peut-être le moins méconnu, à la veille de la guerre.
Oui.
Un film extraordinaire qui s'appelle « Maudite soit la guerre », pacifiste alors que tout le monde va en guerre. C'est un film prémonitoire, mais la tragédie, elle est dans ces films aussi. Elle est là, quoi.
Merci beaucoup, Marie-Line Desbiolles. Machin, votre roman, dernier roman qui est paru chez Flammarion. Merci à vous. Europe 1.